Somalia ni katolikie. Ika kanki wolbade bonya niye kote sanye niye animisiye. Oh oh. Ika kanki wolbade bonya. Ya niye femiye bonya. Niye bonya. Niye wolba bonya. Masaida ni kama kwenye ni keji. Alaye dani ke nga fanga jira chede uma. Alaye dani se. Kinye dona musabe bonya. Ole. Sababu kani.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Les points saillants de ce journal. Les raisons avancées par la CEI pour la non-réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale ne sont pas valables, selon Justin Koné-Katinan. Vous entendrez en début d'édition l'argumentaire du président du Conseil stratégie et politique du PPACI. Il était face à la presse hier lundi à Abidjan. Plusieurs journalistes d'investigation ivoiriens ont été récemment formés pour contribuer à améliorer la transparence et lutter contre la corruption dans le secteur minier. Une initiative à Yamoussoukro du Centre d'excellence africain Mines Environnement Minier de l'Institut National Polytechnique. Félix Houphouët-Boigny. Hors de nos frontières au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé ce mardi le gouvernement d'avoir exposé des civils dans un massacre fin août dans le nord du pays. Et puis l'invité de la rédaction sera aujourd'hui Dr Sadio Adama. L'analyste politique aidera à mieux comprendre les enjeux des législatives au Sénégal qui se tiendront le 17 novembre prochain. Sur le sujet, en fin d'édition, Dr Sadio Adama échangera avec Mata Touré. La réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est une question vitale pour le PPACI, a affirmé le président du Conseil stratégie et politique du parti. C'était hier lundi lors d'un point de presse à Abidjan. Selon Justin Koné-Katinan, la décision de justice invoquée par le président de la CEI ne prive pas Laurent Gbagbo de ses droits civiques et politiques. Nous l'écoutons.
Dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Kuber, président de la CEI, a dit ceci, que selon l'article 3 du code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que cette déchéance, ce sont les peines complémentaires, elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça. Quand elles ont lieu, elles font l'objet d'un énoncé clair dans la décision rendue par le juge, qui détermine en même temps l'ampleur de cette peine et le délai. Par exemple, en ce qui concerne les deux personnalités de GPS qui étaient condamnées, le juge a pris soin de dire qu'ils sont privés de leurs droits civiques et politiques sur 5 ans. Si Hubert dit qu'il a reçu une lettre effectivement du ministère de la Justice qui portait une liste dans laquelle figurait le nom du président, les deux choses l'une, soit il n'a pas bien lu la liste, ou alors le ministère de la Justice s'est totalement trompé parce que la décision, elle est là, elle est dans le domaine public.
Justin Koné-Katinan, le président du Conseil stratégie et politique du PPACI. Toujours à propos de la révision de la liste électorale, l'ONG Tolérance in the World constate un manque d'engouement des populations pour l'opération dans la région du Béké, où elle a pour mission la sensibilisation et l'observation du processus électoral. Diverses raisons expliquent ce fait, selon son président Kofi Ngoran, qui était sur le terrain.
Que nous constatons, les Ivoiriens, surtout dans le Béké, précisément à Langibonou, à Diabo et à Botro, les gens ne viennent pas. Surtout les nouveaux majeurs. Les sommes sont vides. On essaie de sensibiliser, de les amener à comprendre qu'il faut aller se mettre sur la liste électorale pour véritablement porter son candidat en tant que président en 2025. On n'a pas vraiment une bonne écoute lorsque nous partons vers la population.
Alors, qu'est-ce qui explique cela selon vous?
On se dit que, quelle que soit la voix que je vais porter pour mon candidat, les résultats ne sont pas ce qui reflète le vote. Donc, Donc les Ivoiriens sont découragés. Et puis les discours qui se donnent actuellement entre leaders politiques, c'est effrayant. Les gens préfèrent s'asseoir et puis observer, surtout prier Dieu pour ne pas vraiment que la Côte d'Ivoire se brûle. Mon message, c'est de dire à la population de s'intéresser à cette révision de la liste électorale, parce qu'il faut se mettre sur la liste électorale pour pouvoir porter son candidat à la majorité suprême. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous pensions, il faut être sur la liste pour pouvoir porter sa voix. Mais si on n'est pas sur la liste, on verra la personne qui est sur la liste porter son candidat au pouvoir. Et il va exécuter son programme. Concernant nos organes politiques, c'est de ça qu'il s'agit dans les discours. C'est surtout prôner la tolérance. Et puis on n'a qu'un seul pays. La CEI, de tirer les leçons et les conclusions, parce qu'on va déposer des rapports pour que cette révision soit prolongée.
Kofi Ngoran Kwasi Vianney, le président de l'ONG Tolérance in the World, joint par Paul-Bénédicte Bolou. On poursuit avec l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radio électriques qui organise du 22 octobre au 7 novembre prochain une tournée nationale pour la restitution des résultats des mesures des ondes électromagnétiques et leur portée sur les populations. Cette tournée, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, était à l'étape de Yamoussoukro le 25 octobre dernier. C'est ce que nous apprend Émile Yao.
L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques a mené du 15 avril au 15 août 2024 une campagne nationale des mesures des zones électromagnétiques. Cette campagne terminée, elle a décidé d'initier une tournée nationale afin de partager avec les populations ses conclusions. Christiane Nyangi Angate, représentant le directeur général de cette agence.
L'objectif de cette tournée est multiple. Nous voulons, à travers cette restitution, ou fournir des informations précises sur les niveaux d'exposition aux ondes électromagnétiques dans votre ville.
Des données précieuses donc pour le quotidien des populations, estime Bleu, épouse Yao Aya Sylvie, représentant le maire de la commune de Yamoussoukro.
Ces données sont précieuses car elles vont nous guider dans la mise en œuvre de mesures de précaution.
La problématique de la gestion des fréquences radioélectriques et la surveillance des ondes électromagnétiques, enjeu de plus en plus important dans le monde, suscite des interrogations. Christiane Nyangi Angate.
Ces fréquences sont essentielles au bon fonctionnement des infrastructures télécom, radio, des services d'urgence et même des réseaux de transport intelligents. Cependant, l'augmentation des installations radioélectriques comme les antennes avec les nouvelles technologies 3G, 4G, 5G, et Internet suscite des interrogations légitimes sur l'impact des ondes électromagnétiques et sur la santé humaine.
Débutée le 22 octobre dernier, cette tournée de restitution et de sensibilisation des populations s'achève le 7 novembre prochain. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Le Centre d'excellence africain mine, environnement minier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a organisé une formation pour les journalistes d'investigation ivoiriens. C'était du 21 au 25 octobre dernier à Yamoussoukro. Entre autres objectifs, renforcer leur capacité à enquêter sur la gouvernance et la transparence dans le secteur extractif. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Adama Kone, directeur de la scolarité générale de l'INPHB et représentant le coordonnateur du CAMM, a salué l'excellente collaboration avec la GIZ-GRSE.
La formation sur l'amélioration des enquêtes d'investigation dans le secteur minier traduit l'excellence de la collaboration entre la GIZ et l'INPHB.
Seriba Kone, président de l'Organisation des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire, a appelé à une intensification des formations en faveur des journalistes.
Il est primordial de renforcer les capacités des journalistes d'investigation, véritable gardien de l'intérêt public, afin qu'il puisse mener des enquêtes rigoureuses sur ce secteur stratégique.
Julien Tinguin, secrétaire national de l'ITIE, a encouragé les journalistes à s'approprier les rapports de l'ITIE.
Les rapports que nous publions sont des documents qui contiennent assez d'informations qui peuvent permettre aux journalistes de faire un travail sérieux et peut permettre d'améliorer la transparence, lutter contre la corruption.
Mas Atzold, responsable composant Côte d'Ivoire et Libéria de la GIZ-GRSE a rappelé le rôle crucial des journalistes d'investigation pour un secteur minier transparent.
Nous avons besoin de transparence, de bonne gouvernance et d'un secteur extractif qui fonctionne pour tout le monde. Nous avons besoin de personnes pour informer les citoyens, pour demander des comptes au gouvernement. Ces personnes, c'est vous.
La formation a inclus une visite de terrain. Ces visites pratiques ont permis aux journalistes d'observer les réalités du terrain et d'enrichir leurs connaissances.
L'Institut national de formation des agents de santé vient de procéder au lancement de son activité dénommée Caravane de l'agent de santé nouveau à Mans. Une occasion pour les responsables de la structure de sensibiliser les étudiants sur leur choix de profession et la conduite à tenir. Là-dessus, les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkoui.
Cette première édition de la caravane de l'agent de santé nouveau a été opportune pour la représentante de la directrice générale de l'INFAS, Tano Koulibaly Fatmata, de définir l'objectif.
L'INFAS, l'unique établissement ayant en charge la formation de plus de 80% des professionnels de santé en Côte d'Ivoire, a pour mission de mettre au service de la population des hommes et des femmes engagés, compétents et prêts à servir le pays dans toutes les conditions.
Le directeur régional de la santé du Tonkoui, Dr Tiamamadou, à la table de séance.
Ce n'est pas un concept rituel, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une culture que nous devons adopter. Nous devons vraiment nous engager pour ce concept, parce que la population attend beaucoup de nous. Et lorsqu'on choisit la santé, on ne choisit pas la santé pour venir être riche, on choisit la santé pour venir faire un don de soi.
Ces agents de santé en formation se sont montrés très flexibles aux enseignements reçus à l'image de
Boba Josiane. Certes, nous sommes encore des étudiants. Par l'intervention de nos dévanciers, nous avons retenu qu'aujourd'hui, lorsque nous sortirons après le diplôme d'État, nous nous engagerons à travailler comme il se doit. Nous devons être des agents de santé nouveaux, avoir un nouvel esprit et prendre soin des personnes qui viennent pour la santé.
Rappelons que cette caravane de l'agent de santé nouveau va se dérouler sur 10 jours. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Parlons à présent de la deuxième édition d'Octobre Rose, organisée par l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Union des femmes de la Direction générale des impôts. Le vendredi 25 octobre, ces deux structures ont procédé à la sensibilisation et au dépistage du sein de leurs femmes, de leurs membres. Là-dessus, le reportage de Paul-Bénédicte Bolou.
Kwadio Anderson, premier responsable exécutif de la MADGI sur le bien-être social des femmes de cette mutuelle.
Cette activité portant sur le cancer du sein, cancer de l'utérus et l'endométriose cadre parfaitement avec la vision de la MADGI qui place la prévention au centre de sa politique de santé. Accompagner dans toutes les actions qu'ils entreprendront pour le bien-être social et la sécurité sanitaire de la femme de la DGI.
Cancer du sein, il ne s'agit pas de chiffres, mais de bien plus. Loukou Mariette, présidente de l'Union des femmes de la Direction générale des impôts.
Chaque cas est une vie bouleversée, une famille affectée, des histoires de courage, des souffrances, mais aussi d'espoir. C'est pourquoi Octobre Rose est si important pour nous. Il nous rappelle l'urgence de la prévention, l'importance du dépistage précoce et la nécessité d'un accompagnement pour celles qui sont touchées.
Docteur Sandrine Emeaka, présidente de l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, lance un appel aux femmes.
On demande à la population, surtout la population féminine, parce que c'est la maladie la plus fréquente chez la femme, de se faire dépister le plus tôt possible, de savoir pratiquer l'autopalpation des seins, qui est un geste simple. Regardez dans le miroir s'il n'y a pas un changement du bout du sein ou bien s'il n'y a pas de nodule. Et quand vous voyez qu'il y a une petite anomalie au niveau du sein, n'hésitez pas à aller à l'hôpital.
Ouattara Karim, parrain de la cérémonie, quant à lui, a eu un message à l'endroit des hommes.
Les hommes, soutenez les femmes, encouragez-les, montrez-leur que elles peuvent aller se faire dépister et compter sur votre soutien de bout en bout.
Cette activité a été aussi meublée par des témoignages et des conférences.
Direction Korogo, à la faveur de la remise d'attestation de fin de formation en pisciculture à 17 jeunes de la région du Poro. Le coordonnateur du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire est revenu sur les objectifs et missions de sa structure. Nous l'écoutons, Modibo Samake.
Le PSACI a été élaboré pour poser les bases d'un développement solide de l'aquaculture en Côte d'Ivoire et contribuer à la croissance économique de notre pays et surtout sa souveraineté alimentaire. Le PSACI est un programme qui vise deux objectifs principaux, notamment l'amélioration de la production aquacole, mais surtout de susciter l'investissement dans le secteur par le secteur privé. Il est basé sur quatre piliers essentiels, ce qu'on appelle le plan de transformation de la chaîne de valeur, qui vise à créer des zones de production aquacole sur toute l'étendue des territoires. Deuxièmement, la gestion de sites de démonstration, où l'État lui-même est dans l'activité pour démontrer que l'aquaculture est faisable, l'élevage du poisson est faisable, et de définir tous les critères d'une production aquacole. Le dernier pilier, c'est la sensibilisation la formation, le renforcement des capacités pour en faire de ce secteur un secteur durable. Le projet AquaJeune que nous célébrons aujourd'hui symbolise cet engagement fort. Il vise à former dans les prochains mois plus de 3000 jeunes et femmes dans les métiers de l'aquaculture afin de leur permettre de s'insérer dans ce secteur promoteur et de leur offrir un accès au marché du travail.
Modibo Samake, le coordonnateur du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, dans des propos recueillis par Tommy Corona. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé ce mardi le gouvernement d'avoir inutilement exposé des civils au risque d'attaques terroristes, et ce après le massacre d'au moins d'une centaine d'entre eux fin août dans le nord du pays. Cette tuerie perpétrée le 24 août à Barsalogho est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Elle est la plus sanglante recensée dans l'histoire du pays, apprend l'AFP. Ballon d'or 2024, sur fond de polémique, l'Espagnol Rodri remporte le prix de meilleur joueur de l'année dans une cérémonie marquée par le boycott du Real Madrid. C'est le joueur de Manchester City, Rodri, qui a remporté le prestigieux Ballon d'or le lundi 28 octobre.
Théoriquement, le Ballon d'Or distingue le joueur ayant marqué la saison écoulée par ses performances individuelles et des réussites collectives. Cependant, la victoire de Rodrigo face à Vinicius a fait exploser les réseaux sociaux. Ainsi, la victoire de Rodrigo a suscité des critiques de la part de ceux qui considèrent que Vinicius méritait davantage le trophée pour son impact décisif et son jeu explosif. Les accusations d'un vote biaisé favorisant certains clubs ou pays résonne fortement cette année. La polémique de cette édition se nourrit aussi des performances individuelles, impressionnantes laissées de côté, les statistiques remarquables et le rôle central de Vinicius Junior dans les succès du Real Madrid n'ont pas suffi pour convaincre les votants, remettant ainsi en question la transparence et l'objectivité du processus de sélection. Le Ballon d'Or se veut le Graal des distinctions individuelles en football, mais les controverses récente soulève des doutes sur sa crédibilité et son avenir. Faut-il reviser les critères de sélection pour garantir plus d'équité ou encore diversifier le panel des votants pour mieux refléter la diversité du football mondial? Pour restaurer la légitimité de cette récompense, de telles pistes méritent d'être explorées. Les réformes envisagées pour les prochaines éditions seront déterminantes pour redonner tout son éclat au Ballon d'Or et répondre également aux attentes des amateurs du football du monde entier.
Merci à vous, César Yao. L'invité de la rédaction est aujourd'hui Dr Sadio Adama. L'analyste politique aide aujourd'hui à mieux comprendre les enjeux des législatives au Sénégal qui se tiendront le 17 novembre prochain. Pour cette autre bataille électorale, l'ex-président sénégalais Macky Sall a décidé de revenir sur la scène politique. Sur le sujet, Dr Sadio Adama échange avec Mata Touré.
Sadio Adama, bonjour. À peine 8 mois après la présidentielle, les électeurs sénégalais sont de nouveau convoqués aux urnes afin de renouveler pour 5 ans les 165 membres de l'Assemblée nationale. Alors, la scène politique observe ce qu'on peut voir comme un calme précaire. Est-ce que selon vous, c'est le calme avant la tempête?
Mais il faut noter que les élections présidentielles vont vivre beaucoup plus les tensions que les élections législatives. D'ailleurs, même le taux de participation est toujours beaucoup plus faible lorsqu'il s'agit des élections législatives. Donc, les élections législatives ne présentent pas assez d'importance, en fait, aux yeux des populations.
Près d'une cinquantaine de partis politiques, de coalitions de partis et d'indépendants avaient déposé leur dossier de candidature auprès de la DGE, qui, on le rappelle, est l'organe chargé des élections au Sénégal. Où en est-on aujourd'hui?
Après la DGE, il y a eu des recours qui ont été faits contre Ousmane Sonko et contre également Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar. Mm-hmm. Et finalement, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable tous ces recours. Donc, ce sont 41 listes plutôt qui vont aller aux élections législatives. Maintenant, pour que le vote puisse passer beaucoup plus vite, mm-hmm, je rappelle juste qu'en 2017, lors des élections législatives, où on avait 49 listes, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait sorti donc un avis, une décision qui disait tout simplement que l'électeur sénégalais peut, une fois dans le bureau de vote, au lieu de prendre toutes les listes, il peut tout simplement prendre 5 listes. Comme ça, le vote va se passer beaucoup plus vite.
Traditionnellement, les électeurs sénégalais ont toujours donné au président élu la majorité confortable au Parlement, ce qui leur permet d'exécuter leur programme. Est-ce que, selon vous, cette traduction serait respectée cette année?
On semble aller dans la confirmation de cette tradition, parce que déjà, au sein de l'opposition, même s'il y a une intercoalition, mais il n'y a pas une unité. Donc, les 40 listes de l'opposition participent à fragiliser l'opposition, et de deux aussi, dans l'opposition, donc le parti qui était au pouvoir, la PM du président Macky Sall, c'est un parti aujourd'hui où il y a deux listes majeures, la liste de Macky Sall et la liste aussi du candidat de Macky Sall à l'élection présidentielle. Un fait qui forcément va diminuer leur force, et n'oublions pas qu'au Sénégal, que lors des élections législatives, il y a ce qu'on appelle le Baougadou, c'est-à-dire dans les listes départementales, la liste qui aura plus d'une voix va remporter tous les sièges qui sont en jeu dans le département.
Alors, en décidant de diriger la liste de son camp pour ces élections législatives, Ousmane Sonko veut ainsi peser de tout son poids et user de son influence pour maximiser les chances de son parti. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne stratégie?
Il va sans dire qu'avec sa nouvelle opposition, s'il n'a pas la majorité, il lui sera extrêmement difficile de gouverner tranquillement. Donc les enjeux sont énormes. Pour que son gouvernement puisse réaliser la politique pour laquelle les Sénégalais ont voté massivement pour son candidat le 24 mars 2024, il lui faut nécessairement une majorité au niveau de l'Assemblée. Étant aussi le président du parti au pouvoir aujourd'hui, donc légalement et légitimement, que personne d'autre que lui, comme c'est de en plus qu'il est le Premier ministre, il est le chef de la majorité politique.
Alors, dernière question, de votre point de vue, quel crédit est-ce qu'il faut donner à cette ascension selon laquelle ce retour sur la scène politique de Macky Sall serait surtout motivé par une crainte possible de poursuite judiciaire?
Oui, pour moi, le retour du président Macky Sall s'explique par peut-être que 4 facteurs. D'abord, il y a cette volonté d'abattre l'hémorragie politique donc de son camp. Celui qui était son candidat était en train de lui prendre les responsables de son parti politique un à un. Le second facteur, c'est qu'il pourra être majoritaire à l'Assemblée nationale avec cette intercoalition. Et s'il est majoritaire, donc il pourrait être le président de l'Assemblée nationale et par conséquent la deuxième personnalité de l'État du Sénégal. Et dans ce cas-là, il pouvait même lui-même faire nommer le Premier ministre et le président sera obligé de composer avec lui s'il veut diriger tranquillement le pays. Troisièmement, il y a le statut du chef de l'opposition. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi qui détermine qui est le chef de l'opposition, le parti de l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée ou bien le candidat vaincu de l'élection présidentielle. Si toutefois on dit que c'est le parti qui arrive deuxième à l'Assemblée nationale, donc il va de soi que Macky Sall sera le chef de l'opposition. Il y a un cadre institutionnel, il y a un cadre juridique, il y a un budget financier qui est accordé au chef de l'opposition. Et le quatrième pour moi, ah oui, comme vous l'avez si bien dit, un enjeu majeur, c'est les possibles poursuites qui sont envisagées contre lui et aussi ses ministres. Si Macky Sall parvient à empêcher au parti au pouvoir d'avoir une majorité, ce serait synonyme d'empêcher toute possible poursuite contre lui et aussi contre tous ses ministres.
Sadio Adama, je vous remercie infiniment pour avoir répondu aux questions de Radio de la Paix.
C'est moi qui vous remercie.
L'analyste politique Sadio Adama, aujourd'hui invité de la rédaction, était interrogé par Mata Touré. C'est ce qui referme les pages de ce journal, dont voici le rappel des titres. Les raisons avancées par la CEI pour la non-réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale ne sont pas valables, selon Justin Koné-Katinan. Le président du Conseil stratégie et politique du PPACI était face à la presse hier lundi à Abidjan. Et puis, hors de nos frontières au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé ce mardi le gouvernement d'avoir exposé des civils dans un massacre fin août dans le nord du pays. Merci de nous avoir suivis. À 15h, un flash d'information, mais avant, la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. C'est par les préoccupations de vos journaux au sujet de l'actuelle opération